Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40.
Bonjour Juliette.
Bonjour.
Juliette Rousseau, autrice bretonne, tour à tour journaliste, traductrice, éditrice et militante. On vous entend et on vous lit beaucoup sur des questions d'écologie, de féminisme et de ruralité. Et votre dernier ouvrage dont on va parler, il s'appelle Pecnode. Il est paru au mois de septembre aux éditions Cambourakis. Juliette, j'ai découvert votre visage il y a quelques mois sur un plateau, j'allais dire télévisé, mais en l'occurrence c'était en ligne, sur un plateau de Mediapart qui a été organisé au mois de juin. On est alors à quelques semaines du premier tour des élections législatives issues de la dissolution de l'Assemblée nationale, et parmi toutes les voix de la société civile qui étaient présentes et qui suppliaient la gauche de faire vivre l'union, il y avait votre parole que j'avais trouvée, qui tranchait un petit peu parce qu'elle exhortait les partis politiques à faire preuve d'humilité. Je me demandais si là-dessus on était d'accord pour dire que depuis, il ne s'était pas passé grand-chose.
Non, c'est vrai que je parlais d'humilité, je parlais de... Effectivement, c'est quelque chose sur lequel ça n'a pas beaucoup avancé depuis. Je dirais même qu'on régresse à mesure que ce qui nous fait face semble indéboulonnable. Mais quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'imaginaire de la transformation. Et c'est de mettre en acte aussi la transformation. C'est-à-dire mettre en acte le fait qu'on est en cheminement et qu'on ne va pas défaire par un vote, par la bonne idée, par un moment de basculement. On ne va pas réussir à défaire en une fois et d'un seul coup ce dont on a besoin de se défaire aujourd'hui, que ce soit du point de vue idéologique, du point de vue du système économique, politique, etc. Et c'est vrai que je souffre, moi, personnellement, mais je pense n'être pas la seule, du fait qu'on manque de cet horizon de la transformation.
Alors, j'emprunte déjà quelques mots à l'ouvrage dont on va parler, Pecnode, où vous y parlez de la perception politique de la ruralité, pour revenir au champ politique, entre une volonté civilisatrice, qu'aujourd'hui on peut appeler modernisation ou désenclavement, et fantasme réactionnaire qui voudrait que la campagne soit dépositaire d'une tradition et d'un ordre social immuable. Donc c'est ce qu'on lit dans Pecnode, le livre dont on va parler. Avant ça, quand même, dire un mot sur votre parcours. Vous êtes né dans les années 80, pas très loin d'ici, dans une commune de Haute-Bretagne. Vos parents, on le découvre à travers vos livres, étaient des 68ards et sont arrivés dans les années 70 dans cette commune-là. Et puis, vous l'avez quitté. Quel âge vous aviez ? C'est souvent au moment des études.
Je considère que je l'ai quitté à 14 ans pour partir en internat, comme une partie des enfants de la ruralité. J'ai fait tout mon lycée en internat, en Mayenne, à Laval. Donc j'étais quand même encore bien dans la ruralité, puisqu'à l'internat, on se retrouve entre guillemets, entre ploucs. Et puis ensuite, pour les études, effectivement.
Et c'était un désir fort de s'éloigner, en tout cas, de la commune où vous avez grandi ?
Oui, c'était un désir et une évidence. Je dirais que mon désir ne se démarquait pas particulièrement de celui de mes autres amis. C'était un désir très partagé et vraiment considéré comme une évidence.
Quelle place y avait-il ici pour nos corps incandescents, pour nos désirs pleins ? C'est une des questions qu'on retrouve dans le dernier ouvrage que vous avez sorti. Ensuite, il y a eu les études, des études de sociologie, avant de vous tourner vers la lutte climatique à travers différents engagements.
Ouais, pas seulement la lutte sur les questions de climat, ça j'y suis venue plus tard dans mon parcours, mais ça a d'abord été sur les questions de justice sociale, sur les questions de critique de l'impérialisme, on va dire, et de la mondialisation avec le mouvement altermondialiste. Et puis enfin, effectivement, le féminisme, l'écologie, la justice climatique. Mais tout ça, ça a toujours été un tout pour moi. Je me vis pas du tout comme une militante sectorielle, pour moi, c'est vraiment tout se tient ensemble.
Alors, il y a eu en 2012 l'organisation du Sommet des Peuples à Rio, au Brésil. En 2015, la coordination de la coalition Climat 21 au moment d'une COP, parmi d'autres. Et puis, vous êtes allé faire un tour du côté de Notre-Dame-des-Landes jusqu'en 2017. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous mettez un peu plus sérieusement à écrire ?
Oui, j'écrivais avant, mais ça ne me paraissait pas être le plus urgent. Et puis, effectivement, à l'époque où j'habitais à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il m'est apparu un peu plus clairement à quel point on manquait d'outils, notamment dans ce qui touche à l'organisation politique et à la prise en considération des oppressions systémiques. C'était ça, à l'époque, mon sujet de recherche. Et puis, finalement, j'ai commencé vraiment à écrire de façon, pour le coup, littéraire et poétique, en revenant habiter chez moi, ce qui m'a... Notamment, ça fait partie des sujets que j'aborde dans Pecknote, de tout la question du rapport à la langue et comment finalement, dans un lieu qui me semble être marqué par la façon dont il a été dépossédé de sa langue, il a fallu, moi, que je revienne là pour retrouver la mienne.
Alors, il y a eu ce premier livre dont je donne le titre, « Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques », un ouvrage qui est paru aux éditions Cambourakis en 2018, une maison d'édition avec laquelle vous entretenez une relation très fidèle. Puisque voilà, les deux ouvrages dont on va ensuite parler, ils sont parus dans la même maison d'édition. Il y a l'écriture poétique, littéraire, et puis quand même l'écriture journalistique. Vous avez collaboré avec Basta, La Déferlante, Mediapart. C'est encore quelque chose qui est dans votre vie ?
Non, plus du tout. J'ai complètement arrêté l'écriture journalistique pour le coup.
Avant d'arriver au dernier ouvrage, Pecknote, il faut quand même parler de La Vie Têtue qui est paru en...
C'est 2022.
La typographie en couverture est la même. Puis il y a aussi ce même profil féminin qu'on retrouve, même s'il ne s'agit pas du même personnage. Les deux récits ont en commun de s'inscrire dans le territoire rural que vous êtes revenu habiter au départ pour donner naissance. C'est le point de départ.
Oui, c'est comme ça que je suis revenue. Je suis revenue pour donner naissance. Je suis repartie un peu et je suis revenue finalement définitivement 2 ans plus tard.
Avec toujours des questionnements aujourd'hui sur le fait d'y rester ou...
Bien sûr. Parce que je crois que un des mots que j'utilise dans Pecknote pour parler de la dynamique qui me semble être celle avec laquelle j'ai grandi et qui est toujours en cours, c'est la déterritorialisation. C'est pas un mot facile à prononcer. Et dans le sens où je pense qu'on hérite d'un territoire qu'on a déjà perdu et qu'on continue de perdre. On peut pas comprendre la façon qu'on a de l'habiter si on ne comprend pas ça. Et je crois que moi, personnellement, j'écris comme une façon d'aller contre ça. En allant vers ce qui me semble relever du lien intime, des multiples liens intimes d'ailleurs que je nourris avec ce territoire. Mais il faut bien se l'avouer, les forces en face sont très fortes, sont très importantes.
Dans La Vie Têtue, vous vous adressez à votre sœur disparue d'une leucémie, et vous explorez les possibilités de survivre à un héritage lourd de violence patriarcale dans un paysage rural qui a été lui aussi violenté. Il y a des allers-retours entre l'humain et la nature, on va dire.
Oui, je crois que ça fait vraiment profondément partie des choses avec lesquelles j'ai grandi et dont finalement ma socialisation m'a éloignée. Le passage de ma vie en ville encore plus, mais c'est quand même l'idée à la base qu'il y a une continuité entre le corps et le milieu qu'il habite. Et notamment, si on cherche à comprendre les violences, il y a aussi une continuité dans ces violences-là.
Est-ce que je peux vous demander de lire cet extrait où il est question des hirondelles ?
Bien sûr. Les hirondelles se raréfient, en nombre et en présence. Le sentiment que notre enfance était plus dense n'est pas que l'effet de ma mélancolie. La loi prétend protéger l'hirondelle rustique, et stipule notamment que la mutilation intentionnelle ou la perturbation intentionnelle des oiseaux durant la période de reproduction sont interdites. Je tique sur le qualificatif intentionnel, comme si les dévastations de ce monde étaient dues aux intentions. Les années qui ont suivi ta mort, je les ai attendues le cœur serré. Tant qu'elles reviennent, ta mort est une absence mais pas une rupture. Le retour des hirondelles, c'est la vie têtue. C'est toi ou moi, à 5 ou 6 ans, qui tenons tête, ne lâchons pas. C'est toi qui n'es plus, et toi qui es encore, différemment. Leur balai facétieux au-dessus du petit étang, en bas du hameau, m'a ouvert le cœur comme personne d'autre. La joie des hirondelles au-dessus de l'eau, c'est toi qui ne m'as pas complètement quitté. Toi qui perdures, et toi qui gagnes, malgré la mort. Le retour des hirondelles, c'est une place au monde pour mon cœur contradictoire. La possibilité de n'avoir pas à y démêler la joie de la tristesse.
On y arrive donc à ce dernier ouvrage que vous avez écrit. Il se nomme Pecknote et est paru toujours aux éditions Cambourakis au mois de septembre. À l'examen, il y a les mots pecno, plouc, beauf, cutéreux, campagnard. Je remarque, même dans les insultes, je n'existe pas. Ça, ce sont vos mots, plutôt au début de l'ouvrage. Et donc, ça donnera le titre à cet ouvrage. Je me demandais si vous aviez peut-être déjà lu finalement des récits biographiques écrits par des autrices issues du milieu rural.
Oui, bien sûr. On pense évidemment à Marie-Hélène Lafon. Je pense aussi à la poésie d'Angela Duval, sur laquelle j'ai eu l'occasion d'écrire cette année. Oui, évidemment, ça a fait partie de mes lectures. Ce qui a été très, très présent dans mes lectures pour Pecknote, ça a été beaucoup l'histoire et la sociologie, et notamment la sociologie du genre et de la ruralité, qui est une sociologie qui nous a offert des textes assez récents. Je ne me souviens pas, moi, quand j'ai fait des études de sociologie, que c'était une approche qui existait. Et pour le coup, ça m'a vraiment permis de revisiter ma propre histoire, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses.
Alors, vous dites que vous le savez depuis l'enfance, les tenants de la bonne ruralité en sont paradoxalement devenus les fossoyeurs. Et donc, vous revenez habiter dans la région de votre enfance avec ce désir, vous allez me le dire, plus ou moins conscient, de proposer autre chose. Comment est-ce qu'on fait pour quotidiennement faire exister un dialogue avec les fossoyeurs? C'est la question qui m'habite un peu.
Plusieurs choses. Déjà, c'est pas possible de le faire avec tout le monde. Moi, ça m'a beaucoup questionnée, principalement dans la période politique récente. Parce que je crois, une des caractéristiques de la vie rurale telle que je la connais et à laquelle je suis profondément attachée, c'est le fait qu'on nourrit une forme de solidarité matérielle, à travers une forme d'autonomie aussi matérielle forte, qui se fait de façon indistincte avec les gens qui nous entourent, indépendamment de leurs opinions politiques. Je dirais pas indépendamment de leurs origines, et je pense que ça fait partie des problématiques, clairement, sur lesquelles moi j'ai envie d'affronter l'ordre social tel qu'il se perpétue, on va dire, à la campagne. Il y a quand même, dans cette vie campagnarde ou rurale, je ne sais pas comment la qualifier, où se joue un ensemble de dynamiques de solidarité, de sociabilité, etc. Une des règles, c'est la règle de ne jamais parler de politique. Et donc ça fait qu'on peut avoir des relations, et c'est mon cas, on peut avoir des très bonnes relations de voisinage avec des gens qui votent à l'autre bout de l'échiquier politique par rapport à nous. Et je pense que ce qui jusque-là, pour moi, consistait en une règle assez peu questionnée, ça me paraissait pas possible de faire autrement, c'est retrouver profondément questionné, évidemment, avec l'augmentation fulgurante du vote en faveur du Rassemblement National, et qui de fait, je parlais tout à l'heure de déterritorialisation, a pour conséquence de rendre ces territoires inhabitables pour les personnes qui sont en premier lieu visées par les politiques du Rassemblement National. Donc là, on arrive à une sorte de hiatus, en tout cas à quelque chose qu'il faut, à mon avis, questionner dans nos sociabilités, entre ce qui relève d'un héritage de sociabilité désirable et puis ce qui relève des choses avec lesquelles il faut arrêter de composer.
Donc beaucoup d'ambivalence.
Oui, de toute façon, moi ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'ambivalence. J'ai un petit peu du mal avec les approches du monde qui veulent tout lisser d'une manière ou d'une autre. Mais je crois qu'il faut quand même considérer que quand on parle de la ruralité, en tout cas moi ça fait partie des choses de l'ambivalence à partir de laquelle j'ai envie de penser. Quand on parle de la ruralité, on parle d'un espace social qui a été façonné dans un rapport de domination avec l'urbain, avec la ville, avec la modernité. Donc il faut d'abord commencer par comprendre cette domination historique et les implications qu'elle a pour la façon de, à la fois la façon dont on a construit les territoires, mais aussi la façon qu'ont leurs habitants de se subjectiver. Et en même temps, il faut aussi aller regarder de près comment cette subjectivation, est-ce qu'elle a produit aujourd'hui, y compris dans des façons qui peuvent être de se considérer à juste titre comme moins bien traitées par l'État, comme reléguées, etc., peuvent en même temps aller caresser le flanc, voire complètement adhérer à la vision politique du Rassemblement National. Et je crois que c'est dans cette espèce d'ambivalence, en tout cas moi, que j'ai envie d'être aujourd'hui à la fois dans l'écriture, mais aussi dans mes positionnements politiques, c'est-à-dire reconnaître cette construction sociale et politique qui fabrique des ruralités, comme on les connaît aujourd'hui, et la façon dont une des réponses qui est apportée aujourd'hui et qui fait mouche est une réponse absolument ennemie du point de vue politique.
Une question qui va venir un peu faire le lien entre cet ouvrage Pecknote et puis l'actualité, à savoir la reprise d'une mobilisation du monde agricole, toujours trustée dans les médias par la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, page 101 de votre livre, on lit « D'autres guerres ont cours ici désormais, elles sont certainement moins spectaculaires et leurs morts passent plus inaperçues. La violence a été intériorisée. Dans le monde agricole, on se tue deux fois plus que dans le reste de la population. Les risques sont aggravés si l'on est exploitant de bovins. Les femmes, qui sont plus nombreuses à mourir de violences domestiques à la campagne qu'à la ville, sont aussi touchées. » Je trouve qu'on est sur un récit qui est à la fois complexe, mais quand même avec une forme d'empathie. Je me demandais si, lors des nombreuses rencontres qui ont eu lieu, ça a permis de toucher peut-être des lecteurs de ce monde rural que vous défendez. Je pense que c'est toujours une difficulté à sortir justement de cercles peut-être urbains intéressés par ces questions.
Non, c'est très difficile. Pecknote est un texte qui a plus été à la campagne pour le moment, enfin dans des territoires ruraux que la vie têtue, et j'en étais très contente. Mais les présentations que j'ai faites dans des zones rurales, c'est très majoritairement des gens qui sont a priori d'accord, acquis à la cause, entre guillemets, que je défends, qui viennent. C'est beaucoup plus difficile de le porter auprès de publics qui pourraient être plus hostiles, pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que je crois que l'écriture et les livres en particulier sont encore aujourd'hui porteurs d'un rapport de domination qui est celui qui vient annihiler les cultures paysannes dans tout ce qu'elles ont, et notamment dans leur dimension orale et dans le fait que les cultures étaient, les cultures au sens les récits, les chants, etc., se transmettaient principalement de façon orale. Et c'est une vaste discussion, puisqu'il faudrait parler à la fois de la dimension symbolique, c'est un petit peu ce que je viens de faire, de son poids historique, mais aussi tout simplement de la question de la façon dont le livre est aujourd'hui pris dans un marché capitaliste, et que les pouvoirs publics n'ont pas vraiment réussi à défaire cette chose-là, dans le sens où, enfin, pour le dire peut-être plus simplement, des lieux de partage autour de livres à la campagne, il y en a juste beaucoup moins qu'en ville. Et je pense après, peut-être par extension, je pense que chez beaucoup de gens, le livre est perçu comme un outil ennemi, et pas du tout comme un outil qui peut parler de nous.
Au-delà de l'écriture, vous vous engagez sous d'autres formes. Il y a par exemple cette semaine un webinaire qui est organisé alors à l'échelle nationale sur le thème « Agir contre l'extrême droite en ruralité, riposter aux violences racistes et sexistes ». Vous l'avez répété à plusieurs reprises, puis on le comprend aussi dans le livre, que l'antiracisme est au cœur de toutes les questions qu'on a évoquées. Le webinaire, c'est mercredi 20 novembre à 19h et il faut s'inscrire pour y participer. Mais peut-être vous laisser dire un mot sur la question de l'antiracisme.
Effectivement, je pense que c'est toute la difficulté qu'on a. On l'a très bien vu dans le débat public au moment des législatives, c'est-à-dire on a, je pense, un affrontement entre d'un côté une vision très méprisante des zones rurales qui va les considérer comme étant des zones un petit peu arriérées, réactionnaires dans leur essence et donc racistes, comme s'il n'y avait pas de racistes dans les zones urbaines, comme si le racisme n'était pas systémique et donc traversait tous les ensembles et territoriaux et sociaux de la société. Et à l'inverse, on va avoir, je pense, par esprit de défense ou dans des formes de populisme, un refus de regarder la façon dont il y a des formes spécifiques de racisme qui se déploient dans les zones rurales et comment ça peut aujourd'hui entrer en interaction, venir nourrir des positionnalités qui vont nourrir un vote d'extrême droite. Là, par exemple, dans ce webinaire, on a invité plusieurs personnes pour venir parler de racisme. Un collectif, La Lab, qui va venir parler de l'islamophobie qui vise les femmes musulmanes. William Acker, qui travaille pour l'Association nationale des gens du voyage citoyen, qui va venir parler d'antiziganisme. Une personne aussi de l'association A4, qui travaille à installer des personnes exilées issues de l'immigration dans les campagnes.
Et en Bretagne, du côté de Lannion.
Et en Bretagne, du côté de Lannion, et qui a vécu des attaques racistes dans le lieu où ils et elles sont à Lannion. Et je pense qu'effectivement, si on veut toucher à, y compris ce qui fait le cœur idéologique de la proposition de l'extrême droite, il faut aller sur ce terrain-là, et tout en y allant d'une façon... C'est pour moi la seule façon de mener la bataille politique, et ce que ne fait pas la gauche du point de vue national aujourd'hui, c'est-à-dire mener la bataille des idées en étant avec, c'est-à-dire en assumant qu'on habite ces territoires, qu'on y est aussi légitime que d'autres, et aussi légitime au sens où on y habite pleinement. C'est pas juste des endroits où on vient dormir, c'est des endroits où nos enfants vont à l'école, où on est dans les associations, où on nourrit la vie locale avec des valeurs qui sont les nôtres.
J'ai envie de terminer en vous laissant lire un extrait de cet ouvrage, Pecnode, des propos dans lesquels je pense beaucoup d'auditeurs pourront peut-être se retrouver en ces temps troublés depuis un petit moment quand même.
Un à quoi bon grandit toujours plus fort. À quoi bon l'école, le travail, les voyages pressés dans un monde qui brûle. À quoi bon, quand on pourrait rester ensemble au jardin, ramasser les dernières tomates pour en faire des confitures, puis accueillir l'automne comme un vieil ami. Écoutez la mélancolie dont il a toujours porté le nom. Les saisons changent, avec elles le monde s'altère, et il nous manque encore le temps de l'attention à leur endroit. Je voudrais vivre au monde comme on s'allonge près d'un corps aimé et en souffrance, écouter sa respiration difficile, goûter les derniers instants, livré à l'incertitude de ce qui vient, mais en vie, résolument en vie.
Juliette Rousseau, autrice bretonne, donc engagée sur de multiples questions, vous l'avez compris, autrice de cet ouvrage qui est paru il n'y a pas très longtemps, Péquenaude, aux éditions Cambourakis. Et enfin, plutôt sous forme de recommandation, il y a cette création intitulée Doré, qui reprend notamment des textes produits en atelier d'écriture par vous, Juliette, avec le CEDAS et la Maison de la Poésie. Doré, c'est une création d'Élodie Lebars, dansée par Anaëlle Toussert, à voir à l'Université Rennes 2, lundi 25 novembre à partir de 18h. Un récit avec plusieurs voix de femmes, toutes concernées par les violences conjugales. Merci beaucoup.
Merci.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.